Pierre, moi je te remercie pour les 40 ouvrages et ça justifie d'autant plus l'effort consenti par la bibliothèque.
Oui, je crois.
Et le caractère patrimonial donné au fond, qui n'est pas simplement dilapidé dans une bibliothèque, mais qui, dont on a pris soin,
voilà,
conservation.
Oui, parce que des livres qui n'étaient plus manipulables, qu'on ne pouvait plus feuilleter, le sont à nouveau. Alors il y a certains, il y a notamment un volume là sur les 9 que je viens de terminer, il y a encore un volume qui, malgré la restauration, a un papier si acide que le feuilleter, on risque de déchirer chaque page en le feuilletant. Donc celui-là, je vais le signaler et je suppose qu'il sera interdit à la communication tellement il est fragile. Mais pour les autres volumes, enfin c'est le seul que j'ai croisé et qui soit vraiment dans cet état-là, mais pour les autres, ils sont à nouveau manipulables et ça c'est... Voilà, c'est le but d'un livre, hein, d'être lu, d'être feuilleté. Donc on redonne vie au volume.
Moi j'ai une question sur... Est-ce que tu pourrais nous expliquer... parce que je n'ai pas tout compris sur l'acidité du papier en fait. Est-ce que c'est la limite qui provoque l'acidité du papier? Est-ce que c'est les autres interventions?
C'est un mélange. Il y a effectivement la lignine qui est l'élément le plus, qui provoque le plus d'acidité. Mais il y a aussi que pour rendre un papier apte à l'écriture ou apte à l'impression, on fait un encollage qui était au départ fait avec de la gélatine animale. Et au 19e siècle, toujours par souci d'économie et de rapidité, on a commencé à le faire à la colophane. La colophane est aussi quelque chose de très photo-oxydant et qui s'acidifie à longueur de temps. De plus, ces encollages sont souvent faits en milieu acide. C'est comme ça, c'était le procédé, c'était réalisé en milieu acide. Donc ça plus ça plus ça provoque... Il y a ça aussi, il y a la manipulation, il y a les conditions de conservation évidemment, qui ensuite... accélère ou non le processus.
Et en fait, c'est l'oxygène ou c'est la lumière qui finit par abîmer le papier à le rendre si...
Lumière et oxygène.
C'est les deux.
Oui.
Et les taches de...
Foxing.
C'est un phénomène photosensible.
Exactement.
Et pourquoi plus à certains endroits que d'autres, on sait ou pas?
C'est la dispersion des fibres de bois, peut-être. Alors, j'ai expliqué, oui, qu'en pâte chimique, les taches de foxing, on les trouvait surtout sur le pourtour des feuilles, et en pâte mécanique, partout, de manière homogène. Mais après, c'est assez... Enfin, pour moi, en tout cas, je suis pas assez calée en chimie pour savoir expliquer le phénomène. Je le constate, mais je ne saurais pas l'expliquer. Je suppose que c'est au niveau de la concentration des fibres.
C'était le concentré de lignine qui se répartissait au moment de la fabrication du papier.
Voilà.
Puis autrefois, on disait que dans le papier, le bois continuait à vivre, la lignine étant ce qui fait la principale fonction organique d'un arbre, d'un bourrage. Mais c'était je me souviens que c'était la concentration chimique de la lignine au moment de la prise des fibres.
Oui.
Puisque le papier se fait par prise de fibres organiques.
Et en fait, moralité, plus on les lit, plus ils se dégradent, c'est ça? Plus on les ouvre, plus le papier se dégrade.
Alors, oui, en même temps, on n'a pas une manipulation extrême d'un volume quand c'est un ouvrage personnel. Dans une bibliothèque, la question se pose plus, parce qu'il est vraiment soumis à un rythme de manipulation important. Après, il y a des manières de feuilleter, de manipuler. C'est bien de maintenir le dos, de ne pas trop insister sur l'ouverture, quoique la couture sur ruban permet une ouverture assez large. Mais ensuite, au niveau de la tourne, d'y aller vraiment avec précaution, etc. Quand on repose, on peut le refermer de cette manière, mais quand on accompagne vraiment toujours un livre. C'est du bon sens, mais c'est aussi des choses qu'on peut avoir tendance à oublier des fois quand on est un peu...
Oui, justement, à propos de ce papier relativement fragile, on a entendu qu'il était utilisé jusqu'en 1960.
Oui.
Au niveau des éditions Exel, on voit au tournant du siècle des papiers de meilleure qualité. En fait, il a été beaucoup utilisé après 1900, 1920, ou c'était pour des éditions moins onéreuses.
Toujours. Ou alors, c'est le moment où on est passé de la pâte mécanique à la pâte mécanochimique.
Pourquoi ce désir de réversibilité? Est-ce que c'est l'histoire d'être considéré comme faussaire, peut-être? Je ne sais pas. Et une deuxième question, quel est votre rapport avec les collectionneurs aussi? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les collectionneurs, de ce genre de choses?
De la réversibilité?
Non, pas de la réversibilité, de la restauration pour elle-même.
Alors, la réversibilité, ça veut dire que si quelqu'un humidifie le coin que j'ai restauré, les éléments vont se détacher doucement et on pourra réintervenir. C'est important. Plutôt que d'utiliser une glue, imaginons que j'ai utilisé un mauvais matériau, imaginons que j'ai mal fait, que ce soit pas joli, que ce soit raté, il doit y avoir une autre intervention, il est important que j'ai travaillé avec les matériaux sur lesquels on peut retravailler. On peut réintervenir, en fait. Donc la réversibilité est d'ailleurs, enfin c'est un principe, la restauration est une discipline jeune qui a une vingtaine d'années et qui est vraiment en cours de normalisation, en cours de réglementation. Il y a des éthiques qui sont suggérées, qui sont soufflées, parce qu'on a constaté énormément d'excès et d'abus des matériaux de mauvaise qualité, des consommables lamentables, hein, de la colle à bois posée sur les dos, qui sont en train de ronger le papier en une petite dizaine d'années, enfin des choses qui ont des conséquences sur le bloc texte lui-même assez catastrophiques. Donc vraiment la réversibilité est un point très important de l'éthique de travail d'un restaurateur. Après, au niveau du rapport avec les collectionneurs, c'est-à-dire est-ce au niveau de la discrétion ou plutôt au niveau de la valeur?
La valeur, justement, qu'est-ce qu'un collectionneur pense d'un livre restauré, justement? Et, par exemple, Philippe Burgo, Keller ou Madalin, je ne sais pas.
Il suffit de voir dans les ventes, c'est tout. Les livres restaurés se vendent moins cher que des livres qui sont quasi neufs.
Et bien c'est ça, et bien c'est là que j'ai eu une révélation, en fait, en étudiant et en me renseignant un petit peu sur les côtes. On a effectivement l'habitude de dire qu'un livre restauré se vend moins cher. Mais c'est parce qu'il n'était pas neuf. C'est parce qu'il était en état médiocre, voire passable. Donc, s'il avait été vendu en état médiocre ou passable, il valait moins qu'une fois restauré. Donc, je trouve cette affirmation un peu fausse, en fait. Bien sûr, le livre restauré vaudra moins qu'un livre en parfait état, mais plus que médiocre ou passable.
Ce qui veut dire que vous supposez qu'on peut rattraper le coût de la restauration dans la vente du livre.
Voilà, pour un libraire ancien ou un collectionneur...
Est-ce vraiment le cas ?
Pas toujours. Pas toujours. C'est très juste.
Autre chose, peut-être plus ambigu, je ne sais pas, mais est-ce de l'art ou de la technique? On est où?
Pour moi, j'exerce un métier d'art, le métier de relieur, et qui fait partie des 26 métiers d'art listés en France. Pour moi, si on parle d'art, il y a création, il y a originalité, il y a innovation. Là, moi, je suis ouvrier artisan. Quand je fais ça, je suis au service du livre, bien sûr, mais au service, et d'autant plus en restauration, au service de ce qu'il était auparavant. Je ne prends aucune initiative. Je prends des décisions, mais je ne prends pas d'initiative. Je ne suis pas dans la création. C'est là que la définition du métier d'art est un petit peu ambiguë.
Comment mettre ça? La médecine, c'est de l'art. Enfin, vous disiez,
oui, voilà, donc ce serait par extension, par...
Et au niveau de la restauration, on parle souvent de miracle, donc il doit y avoir aussi un côté divin à la chose.
Oui, en ce qui concerne la dorure, hein, sur les tranches, est-ce qu'elle a un effet particulier justement sur tous les aspects de conservation? Autrement dit, est-ce qu'elle a un effet bénéfique ou au contraire? Alors en fait, on voit sur ces cartonnages SL, donc... certains ouvrages qui n'ont pas de dorure sur les tranches, donc je pense notamment à la bibliothèque des succès scolaires, hein, où il n'y a pas de dorure, mais c'est coloré avec un ton un peu rouge, hein, et on a l'impression que ça se conserve mieux. Donc est-ce que...
Le rouge ou le doré?
Non, le rouge.
Le rouge. Oui. En principe, alors, le fait, L'élément de conservation très important, c'est le fait que les ouvrages soient massicotés. Ça nous fait des tranches parfaitement lisses qui sont faciles à dépoussiérer. C'est très important de dépoussiérer régulièrement ces livres. La poussière est pleine de micro-organismes qui rongent, qui s'imprègnent dans le papier. Donc ça, c'est vraiment l'élément premier. La dorure facilitera d'autant plus le dépoussiérage. Jusque 1900, on est sûr que c'était vraiment doré à l'or fin. Ensuite, ça n'est plus vraiment le cas. D'ailleurs, je l'ai pris au hasard, mais on a là du cuivre qui vieillit plutôt mal. Donc c'est peut-être tout simplement ça que vous avez constaté, des tranches dorées, non pas à l'or, mais avec un autre matériau qui vieillit mal. Sinon, l'or sera la meilleure, enfin, comparé à une teinture, sera de meilleure qualité.
Question technique,
ça dépend. Malheureusement.
On était un peu dans les
pompes. Oui, là, c'est. Comme je disais, ça passe de 2 heures en plaçure, notamment, parce que le nerf du problème est là. Hein. Donc, la réparation des fonds de cahier, des déchirures, des lacunes. Un artisan facture du temps. Donc, si on passe 2 heures à réparer le corps d'ouvrage ou 14, on n'est pas du tout dans la même facture. Et malheureusement, j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises en débrochage, quand on démonte le volume. Un volume qu'on croit en bon état ne l'est pas du tout, etc. Voilà. Pour revenir à la question du coût et de est-ce que c'est valable pour un collectionneur, en termes de restauration, on a l'habitude de dire que c'est rentable, donc financièrement intéressant, quand la restauration équivaut à un tiers de la valeur bibliophilique du livre. Ensuite, il y a des bibliothèques, par exemple, qui ne regardent pas au coût parce qu'ils ont une fonction de conservation et de préservation. Donc, par définition, leur mission est de préserver ce patrimoine. Pour un collectionneur, la question se pose différemment.
Merci.